journal. Bonsoir Pierre Veil.
Bonsoir Claire, bonsoir à tous. Washington s'attend à une vaste manifestation ce soir après la mort de George Floyd, certainement la plus forte mobilisation aux États-Unis depuis le début du mouvement de protestation contre le racisme et les violences policières. Nous serons dans la capitale fédérale. Pour dénoncer les violences policières en France, des milliers de manifestants dans les rues malgré les interdictions de se rassembler pour cause d'épidémie de Covid-19. 1000 personnes près de l'ambassade américaine à Paris, plusieurs milliers à Lyon. Reportage sur place dans ce journal. Au sommaire encore, l'éducation nationale lance les vacances apprenantes pour 1 million d'élèves. Objectif rattrapé pendant l'été. Le retard dû aux fermetures d'écoles en raison de l'épidémie de coronavirus. Le chef d'Al-Qaïda au Maghreb islamique tué au Mali par les forces françaises, coup dur pour la nébuleuse terroriste au Sahel que la France affronte avec l'opération Barkhane. Comme tous les samedis, ma vie connectée, Christine Siméon, ce soir, comment se débarrasser des mensonges et mentions trop promotionnelles sur Wikipédia.
France Inter.
Aux États-Unis, la mobilisation contre le racisme et les brutalités policières ne faiblit pas après la mort de George Floyd. Le 25 mai, cet homme noir tué par un policier blanc à Minneapolis. Des rassemblements importants sont prévus dans de nombreuses villes dans les prochaines heures, notamment à New York, Miami et à Washington, où on retrouve notre correspondant permanent, Grégory Phillips, devant la Maison-Blanche. Grégory, le chef de la police de la ville, dit que Washington pourrait connaître l'une des plus grandes manifestations jamais organisées dans la capitale fédérale.
Bonsoir. Pierre, il y a en ville plusieurs points de rassemblement, mais trois principaux, la Maison Blanche où je me trouve, le Capitole où siège le Congrès des États-Unis et puis le Lincoln Memorial où en août 1963, Martin Luther King avait prononcé son célèbre I have a dream. Le chef de la police de Washington a donc prévenu, ce sera peut-être l'une des manifestations les plus importantes que la capitale fédérale ait jamais connue. Les organisateurs espèrent 1 million de personnes ici face à la Maison Blanche. Elles sont déjà quelques milliers, et notamment sur la 16e rue où la mairie a fait peindre en lettres jaunes et géantes sur le bitume le slogan « Black Lives Matter, les vies noires comptent ». On est à peu près à 500 mètres des fenêtres de Donald Trump. Autour de moi, c'est extrêmement paisible en ce moment. On chante, on prie aussi avec en toile de fond. Cette Maison Blanche totalement barricadée est désormais entourée d'une barrière grillagée de presque 3 km de long. Les policiers et militaires de la garde nationale sont extrêmement nombreux. En vérité, c'est tout le cœur de la capitale fédérale qui est bouclé. Vous le voyez Pierre, la mobilisation et la colère ne retombent pas et ce sera sans doute le cas au moins jusqu'à mardi, la date prévue pour les obsèques de George Floyd à Houston, sa ville natale.
Grégory Phillips à Washington.
En France, Pierre, les rassemblements sont officiellement interdits en raison de la crise sanitaire.
Oui, ça n'a pas empêché de nombreux rassemblements en hommage à George Floyd, mais aussi pour dénoncer les violences policières chez nous. Des centaines de personnes dans les rues à Bordeaux, Rennes, Poitiers, Le Mans. À Paris, 1000 manifestants près de l'ambassade américaine cet après-midi, place de la Concorde, face à des forces de l'ordre déployées en masse et des barrières anti-émeutes. 1500 personnes environ vers 17h un peu plus tard, donc au champ de Mars. Et puis à Lyon, plusieurs milliers de manifestants dans les rues. La manifestation était autorisée. Récit de Christophe Vincent.
Ils étaient plus de 5000 à défiler dans le périmètre autorisé. Comme ils n'avaient pas les habitudes des gilets jaunes, ils se sont trompés de pont, mais la police a laissé faire, sans doute convaincue de l'esprit pacifique des manifestants, plutôt jeunes, beaucoup d'origine africaine, comme Aïcha.
C'est vraiment dommage qu'on doit marcher aujourd'hui pour défendre notre couleur de peau, quoi. Juste de la mélanine. Les remarques déplaçantes, les blagues qui ne sont pas drôles, on avait tout intériorisé et là on en a marre, on se dit c'est bon.
Plus loin, Aurélie portait une pancarte. En France aussi, stop aux violences policières.
Il y a aussi des victimes de violences raciales en France. C'est très bien de soutenir le mouvement initié par la mort de John Floyd et tout ce qui se passe aux États-Unis, mais il ne faut pas oublier de se regarder dans le miroir.
Des très jeunes et des anciens comme Patrick, 72 ans.
Je suis là pour soutenir la famille Traoré et puis toutes les victimes du racisme, de l'antisémitisme, racisme, anti-black, anti-arabe. Ça fait 5 siècles que ça dure, je trouve ça épouvantable franchement. Et je suis très heureux de voir qu'il y a toute cette jeunesse qui est là, c'est porteur d'espoir.
Le cortège s'est dispersé place Bellecour vers 17h30. Lyon, Christophe Vincent, France Inter.
Cette indignation contre les violences policières touche le monde entier. Des centaines de manifestants aujourd'hui à Londres ou Manchester et ses pancartes « Être noir n'est pas un crime ». En finir avec le racisme, une autre pandémie. Manifestations aussi en Australie, à Sydney, à Liège, en Belgique, à Tunis. Et puis en Allemagne, les joueurs du Bayern de Munich, le leader du championnat, ont montré leur solidarité solidarité en s'échauffant avant un match contre Leverkusen avec un t-shirt portant l'inscription « Carton rouge contre le racisme ». Des vacances apprenantes, c'est un dispositif dévoilé aujourd'hui par le ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer. Il permettra à 1 million d'enfants d'avoir des vacances plus studieuses cet été pour rattraper une partie du retard accumulé pendant la période de confinement avec de longs moments sans école. Hélène Filly, 200 millions d'euros financeront ce plan pour lutter contre les risques de décrochage scolaire.
Changer d'air tout en maintenant un suivi pédagogique, combler un éventuel retard avant la rentrée prochaine, c'est bien l'objectif des mesures dévoilées ce matin, de ces colonies de vacances apprenantes notamment, avec des activités ludiques mais aussi des modules de maths, de langue. 250 000 places sont offertes, en majorité aux enfants issus des quartiers prioritaires. En parallèle, 2500 établissements scolaires resteront ouverts. Renforcement scolaire le matin, activité l'après-midi, 100 000 élèves en bénéficieront contre 70 000 aujourd'hui. La remobilisation pédagogique passera aussi par les écoles ouvertes buissonnières, à la mer ou à la campagne, ouvertes à 50 000 élèves. Évidemment, il faudra des enseignants en plus. Le ministre de l'Éducation compte sur la mobilisation de 25 000 personnels encadrants. C'est 5 fois plus qu'aujourd'hui. L'État met aussi 30 millions d'euros sur la table pour former des animateurs BAFA qui pourraient manquer aux colonies de vacances.
Hélène Filly, le deuxième tour des élections municipales le 28 juin. Plus personne ne pense qu'Agnès Buzyn va être élue maire de Paris. C'est ce qu'a écrit à des militants La République En Marche Marlène Schiappa, la secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes. Elle figure sur la liste macroniste dans le 14e arrondissement. Marlène Schiappa fait ce constat dans des SMS révélés par le magazine Le Point et non démentis par l'entourage de Marlène Schiappa. Le leader de la France Insoumise et député des Bouches-du-Rhône, Jean-Luc Mélenchon, apporte son soutien à la candidate de la liste d'Union de la Gauche, Michel Rubirola, pour les municipales à Marseille, même s'il reste, je le cite, perplexe sur sa stratégie. 1 millier de manifestants, des salariés, des élus et des habitants de Choisy-le-Roi en banlieue parisienne ont marché cet après-midi vers l'usine Renault de la ville pour dire non à la fermeture du site. Renault prévoit de fermer cette usine dans le cadre d'un plan d'économie de 2 milliards d'euros à réaliser sur 3 ans. Reportage Victoria Coussa.
Autour des salariés en tête de cortège, veste aux losanges sur le dos et très tirés par des nuits d'inquiétude, des dizaines d'habitants sont venus les soutenir comme Fatia.
Il y avait les grands-parents qui ont travaillé ici, les voisins, les parents des voisins qui ont des familles. Et là, ils vont être sans boulot, sans travail, ça fait mal au cœur.
Une présence qui remonte le moral des troupes, Philippe Da Silva, délégué syndical CGT.
Ça nous fait chaud au cœur parce qu'aujourd'hui, dans l'usine, c'est beaucoup de personnes en pleurs. C'est des gens avec un mal-être énorme. Ils savent plus de quel côté se tourner, sachant qu'aujourd'hui il y a énormément de personnes qui sont mobilisées, c'est essentiel.
Derrière lui, Alex tient le bras de sa fille.
Tout s'écroule maintenant.
Il a tout fait pour se rapprocher d'elle il y a 3 ans en venant travailler ici.
C'est la maman qui a la garde. Là, on arrive à s'arranger parce que je vais la chercher à l'école. Si je déménage, je ne pourrai plus le faire.
Car avec le transfert d'activité à Flin, à 60 km dans les Yvelines, les familles des 262 salariés devront quitter Choisy et ses alentours. Une catastrophe pour le maire PCF, Didier Guillaume.
C'est un impact aussi global sur tout le bassin d'emploi. Sanofi, Alfortville va fermer. On a vu aussi Castorama sur le secteur a fermé. Donc à un moment donné, ce n'est pas possible.
Tous terminent le défilé devant les grilles de l'usine que Renault compte fermer définitivement d'ici 2 ans.
Victoria Coussa a choisi le roi.
C'était un chef historique du terrorisme au Maghreb, Pierre.
Oui, Abdelmalek Droukdal. Il avait 49 ans. Il a été tué par les forces françaises dans le nord du Mali, près de la frontière algérienne. Opération militaire mercredi dernier, avec des hélicoptères, des troupes au sol et avec des renseignements fournis par les États-Unis. Droukdal était le leader d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. Sa disparition est un succès majeur, selon la ministre des Armées, Florence Parly, même si, Valérie Crova, la lutte contre le djihadisme s'annonce encore longue et difficile, tant les armées locales peinent à lutter seules dans cette immense région semi-désertique qu'est le Sahel.
Entre l'élimination de l'émir d'Akhmi et la capture d'un commandant de l'État islamique au Grand Sahara en mai, le double succès remporté par les forces françaises et leurs partenaires, insiste-t-on à Paris, est la concrétisation des efforts qui ont redoublé pour lutter contre les groupes djihadistes. La France a augmenté les effectifs de Barkhane, qui sont passés de 4 500 à plus de 5 000 hommes, des troupes conventionnelles mais aussi des forces spéciales qui multiplient les offensives et traquent les djihadistes. 500 d'entre eux ont été tués ou capturés au Sahel ces derniers mois. Des victoires, certes, mais qui ne seraient pas possibles sans l'appui indispensable des forces françaises. Paris n'a eu de cesse de retarder le désengagement de la force Barkhane pour permettre aux armées locales d'assurer la sécurité d'un territoire grand comme l'Europe. Des armées qui se concertent mieux depuis le lancement en avril de la coalition internationale pour le Sahel avec un commandement conjoint. Le déploiement prévu cet été de la Task Force Takuba, composée de plusieurs centaines de forces spéciales européennes, est également attendu avec impatience par Bamako pour accompagner les soldats maliens au combat.
Valérie Crova, les sports maintenant, le football en Grande-Bretagne. La Première Ligue redémarrera le 17 juin. Après les Allemands récemment, les Espagnols la semaine prochaine, les footballeurs anglais vont eux aussi finir la saison. Au moins 9 matchs à disputer, sans compter la Coupe d'ici au 2 juillet. Le tout dans des conditions particulières en raison de l'épidémie de coronavirus qui sévit toujours. Pas de public dans les stades et un certain nombre de gestes barrières et de précautions à respecter. Parmi les joueurs concernés, l'attaquant de l'équipe de France, Olivier Giroud. Il joue à Chelsea, quatrième de Première Ligue. Bertrand Queneut, Giroud vient de rechausser les crampons.
De retour à l'entraînement depuis le 19 mai par petits groupes d'abord, puis avec du contact ces derniers jours, Olivier Giroud est désormais impatient d'entamer la fin de saison, même s'il a fallu chasser les craintes et les réticences.
C'était pas sans inquiétude, pour être honnête avec vous. Au final, on n'a pas eu de cas déclarés depuis la reprise de l'entraînement. On a hâte de reprendre, mais ça perd quand même beaucoup de son charme. Il faut être patient avant d'avoir nos supporters dans nos stades.
Ces dernières semaines, le Français a pu voir ce que ça donnait en Allemagne, où la Bundesliga a déjà repris. Et il a plutôt apprécié les initiatives de certains clubs, où l'on a par exemple remplacé les spectateurs par des pancartes avec leurs portraits.
Bon, après, on va pas se cacher que c'est pas comme s'il y avait du monde dans le stade, mais ça compense un peu.
Toujours est-il qu'Olivier Giroud s'apprête à vivre une situation inédite.
Quand je jouais à Nice, quand même, il y avait quand même peu de monde dans le stade, à part seulement là-bas. Mais j'ai pas ce souvenir des matchs à huis clos, donc c'est quand même différent.
Quoi qu'il arrive et peu importe le contexte, Olivier Giroud est déterminé à faire aussi forte impression que lors des derniers matchs avant le confinement et à prouver à son coach Frank Lampard qu'il a eu raison de lui redonner sa chance, lui qui l'hiver dernier ne comptait plus sur l'attaquant français.
Voilà, Olivier Giroud avec Bertrand Queneut, le Livre Inter, lundi prochain sur France Inter. Dans le journal de 8h, nous connaîtrons le nom du lauréat ou de la lauréate. Les 24 jurés, les auditeurs d'Inter, délibèrent aujourd'hui et demain. Alors pour cause de crise sanitaire, ils ne sont pas réunis dans une même salle comme les années précédentes. Ils débattent en visioconférence avec Philippe Lançon, le président du jury. Eva Bétan, bonsoir.
Bonsoir.
Eva, vous avez suivi ces discussions aujourd'hui, donc première journée de débat.
Premier round, la suite c'est demain. Voilà.
Alors on défend les livres en compétition, on les analyse, on les critique aussi, je pense. C'est un vrai débat entre amoureux de la littérature.
Écoutez, je vais vous dire très franchement, je suis soulagée. J'avais peur, je me disais, mon Dieu, s'ils sont congelés, s'ils ont peur, ça s'est très bien passé. D'abord techniquement, et là je veux remercier les équipes techniques de France Inter, parce que ça a très bien marché techniquement, mais on avait des gens concentrés, en attente. C'est comme s'il y avait une sorte d'énergie tenue qui demandait qu'à se libérer, et tout de suite, on était dedans. Alors, la différence, si vous voulez, avec « en vrai », entre guillemets, c'est qu'on n'a pas le gros plan où on voit tout le monde. Mais comme au cinéma, on n'a pas le plan de large, je veux dire, on voit tout le monde. Mais là, on a le gros plan. Les gens parlent et on les voit. Et ils sont libres. Ils ne sont pas du tout, peut-être parce qu'ils sont chez eux, ils ne sont pas intimidés par... Je ne dis pas que c'est mieux, mais je dis que ce qui se passe là est intéressant. C'est autre chose et c'est intéressant. Le premier tour d'aujourd'hui, on défriche. C'est-à-dire qu'on fait un tour de table, ce qui permet à chacun de s'exprimer et ils vont dire leurs préférences et éventuellement leur rejet. Si on votait aujourd'hui, tout le monde serait frustré. Même celui dont le chouchou a été élu, dit, c'est allé aussi vite. Non, il faut qu'il y ait un débat. Et c'est ça, c'est la grosse partie de demain. Et ils vont déterminer leurs critères eux-mêmes. Et la question se posera un moment, mais la question, c'est pas juste qu'est-ce que j'aime, c'est qu'est-ce que doit être un Livre Inter. On va pas les aider, ils vont le déterminer eux-mêmes. Donc le gros morceau, c'est demain. Mais franchement, je suis très contente de ce premier tour. Dans les jurés de droit, si vous voulez, il y a le lauréat de l'an dernier. C'est Emmanuelle Bayamaktam. Et elle dit, rétrospectivement, je suis terrifiée. Parce que c'est les gens, ils y vont, quoi. Quelquefois, ils critiquent violemment. Et donc, elle est sortie victorieuse de débats très vigoureux, et les débats seront vigoureux aussi demain.
Et que dit le président du jury, Philippe Lançon ?
Le président, il dirige très bien, il écoute, il veut que tout le monde s'exprime et il est en train de se préparer Alors, grosse bagarre de demain. Mais il faut qu'il y ait de la bagarre. Il faut que les gens se battent et c'est comme ça qu'ils sont contents.
Donc demain, la bagarre.
La bagarre.
Vous serez là demain soir à 19h pour nous raconter cette
journée.
Oui,
sauf si la bagarre continue. À ce moment-là, c'est ma camarade et collègue, Corinne Pellissier, qui aura tout suivi, qui viendra
vous
raconter.
Parce qu'après, il y a un vote, évidemment.
Ben oui, il y a plusieurs tours de scrutin.
Et on connaîtra le résultat lundi matin.
Nous, on le connaîtra avant, mais on l'annoncera à l'antenne à 8h.
Mais c'est ce que je voulais
dire. Et malgré
dire.
Twitter et le reste, ça ne fuira pas.
Merci Eva Bétan. Et c'est l'heure de la vie connectée, comme tous les samedis, avec Christine Siméon. L'encyclopédie en ligne Wikipédia est désormais incontournable. C'est l'un des sites les plus consultés. Pour autant, Wikipédia n'est pas à l'abri de critiques. Les Wikipédiens et Wikipédiennes bénévoles essaient d'y remédier. Dernièrement, certains d'entre eux se sont sérieusement attaqués aux mentions promotionnelles de certaines pages. Bonsoir Christine Siméon.
Bonsoir, bonsoir à tous.
Christine, il y a des pages Wikipédia pour des sociétés ou des personnes qui clairement comportent des mentions uniquement destinées à faire leur promotion.
Oui, je dirais que c'est presque de bonne guerre et quand c'est fait de bonne foi, eh bien les Wikipédiens n'ont pas de mal à repérer et supprimer les mentions trop enthousiastes sur ces pages. Mais les administrateurs de la Wikipédia en français se sont rendus compte de l'ampleur du phénomène en repérant 200 articles concernés ces derniers temps, une véritable dérive au profit des grandes entreprises comme La Poste, Carrefour, Crédit Mutuel, Air Liquide ou des sociétés stratégiques en lien avec l'énergie ou des sociétés paramilitaires.
Et il a fallu pour cela une enquête minutieuse, Christine.
En se faisant passer pour une société qui voulait se faire faire une page Wikipédia à son nom, les limiers de l'encyclopédie ont contacté plusieurs agences de communication. Certaines connaissent parfaitement les codes de la contribution pour écrire sans se faire remarquer. Écoutez Jules, l'un de ces Wikipédiens enquêteurs.
Par exemple, le ton des modifications peut en lui-même être neutre plutôt qu'être promotionnel. Et ce sont les informations qui intrinsèquement peuvent être positives pour l'entreprise, voire souvent anecdotiques. On a eu des agences de communication qui nous ont dit très clairement que, par exemple, tel sujet ne pouvait pas être admissible sur l'encyclopédie ou bien encore qu'elle ne pouvait pas purement et simplement supprimer des informations négatives sur une entreprise, mais que plutôt elles allaient, pour éviter d'être repérées par les administrateurs ou par les bénévoles qui patrouillent, elles allaient essayer de noyer l'information négative au milieu de contenus beaucoup plus positifs.
Certaines agences proposent pour 1 000 à 6 000 euros une modification ou une page complète en bonne et due forme. Mais évidemment, ce n'est pas l'esprit utopique peut-être de l'encyclopédie en ligne.
Il y a une règle très importante qui est un principe fondateur, qui est la neutralité de point de vue, qui est que sur Wikipédia, on va rédiger avec un ton neutre.
Depuis 2018, le projet anti-pub de Wikipédia rassemble les bonnes volontés parmi les contributeurs pour nettoyer les pages de leurs améliorations excessives. Je vais dire ça comme ça. Chaque année, ils font un mois de nettoyage des aspects publicitaires des pages. Et cette année, ils prennent la mesure de la tâche. Ils sont une quinzaine à s'être manifestés pour faire ce travail.
La vie connectée de Christine Siméon à réécouter sur franceinter.fr. C'est la fin de ce journal. Restez avec nous sur France Inter. Dans quelques instants, le téléphone sonne. Claire Servageant, 01 45 24 7000. Et ce soir,
vous êtes parfait, Pierre.
L'espace.
Eh oui, on va prendre de la hauteur, comme on dit dans ces cas-là. Mais d'abord, le temps.
La météo avec les cafés Malongo, grand cru biologique et équitable, créateur de machines expresso à dose, fabriqué en France, à retrouver sur malongo.com.
Prévision de Jean-Michel Golinski.
Demain, la journée sera encore une fois très éloignée des marques du beau fixe, même si le soleil refait plus largement surface qu'aujourd'hui entre l'Aquitaine, les régions du centre et le quart nord-est. Sur le reste du pays, l'ambiance sera plus mitigée, avec le matin des pluies entrecoupées d'averses et d'orages, des Pyrénées au golfe du Lion jusqu'en Rhône-Alpes. En journée, le temps va rester maussade près des Pyrénées, pluvieux orageux sur les Alpes, mais la levée de la tramontane va dégager le Languedoc et le Roussillon. Sur toute la moitié nord du pays et sur le Poitou-Charentes, la fin de la nuit sera ponctuée d'averses et de coups de tonnerre, une ambiance instable qui va perdurer une grande partie de la journée. Les températures maximales en légère hausse au nord de la Loire et dans le nord-est, avec 18 à 21 en général, vont perdre un peu dans la moitié sud, entre 2 et 4 degrés par rapport à aujourd'hui. Il est prévu une vingtaine de degrés à Toulouse et Perpignan, 23 sur les Bouches-du-Rhône et 25 dans l'intérieur de la Provence et sur la Corse.